Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Silence on joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, ou un gros programme cette semaine, on va parler d'Observation, de A Plague Tale Innocence, et on finira par Alt Frequencies, le nouveau jeu des Accidental Queens. Et puis le reste du programme, vous connaissez avec le Com des Coms, la chronique de Jérémy Kletskin. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Marius Chapuis de Libération. Bonjour Marius.
Salut Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin des Croissants. Bonjour Corentin.
Salut Erwan.
On commence avec toi, Marius, avec du sable.
Oui, une bonne nouvelle qui est déguisée en mauvaise nouvelle. Sable, qui était une des sensations de l'E3 dernier, grâce à ses graphismes de ouf, qui étaient très largement pompés sur Moebius. Moi, j'étais très, 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 très enthousiaste à l'idée de toucher à ce jeu-là, qui était prévu pour cette année, et qui a été repoussé. Et en fait, c'est une très bonne nouvelle, je suis content, parce que les mecs, c'est une petite équipe. Ils sont certes soutenus par Raw Fury et Microsoft derrière, mais ils sont pas nombreux, et je préfère qu'ils soignent leur jeu et qu'on évite un petit drame de sortie où tout le monde a été overhypé et puis se retrouve avec un truc moyen.
Bien c'est, déjà arrivé, hein.
c'est déjà arrivé.
Ça,
comme disait maître Miyamoto, un jeu repoussé a une chance d'être bon, un jeu rushé sera toujours mauvais. Voilà.
C'est ça.
Merci.
Corentin.
Oui, bonjour. Alors, Nintendo est bourré, pourquoi ? Parce que Nintendo avait de l'or dans les mains, hein, avec Mario Maker 2, Super Mario Maker 2. Tout le monde était très content jusque-là, c'était vraiment l'idylle. On nous présente un jeu dans le Nintendo Direct, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités, tout le monde est très content, notamment pour un mode en particulier, qui est le mode multijoueur. On va pouvoir jouer ensemble à des niveaux de Mario Maker, soit en coopération, soit en compétition, c'est génial. Sauf que Nintendo, qui n'aime pas le fun apparemment, qui aime bien le supprimer, a dit, non, en fait, parce qu'on ne pourra pas jouer avec ses amis, on jouera qu'avec des randoms sur Internet. Si vous voulez jouer avec vos vrais amis, il faudra jouer ensemble dans la même pièce, soit en sans fil, soit en local. Pourquoi on paye 20€ le online pour ça, Nintendo ? Qu'est-ce qui te prend ? Mais cette décision ne fait aucun sens, elle n'a aucun sens, même j'en fais des anglicismes. C'est terrible quand même de décider ça, c'est vraiment... Nintendo a un truc qui excite tout le monde, qui tout le monde est content, et fait pour une décision mais débile. Et vraiment là, plus personne n'est content, tout le monde râle sur le jeu, alors que tout le monde était très content jusqu'à avant cette annonce, c'est dingue. Donc ça, c'était Nintendo World Report qui a posé la question, on les remercie, à des cadres de Nintendo dans le cadre d'une preview, et qui ont confirmé ça, et personne ne comprend cette décision. Personne, mais vraiment, il n'y a aucune raison pour laquelle ça se fait. Alors, la raison avancée, c'est oui, mais ça va gâcher les classements pour le compétitif de Mario Maker. Alors, de Mario Maker compétitif, je pense que tu peux t'asseoir dessus, boire de l'eau. La deuxième, c'est que mais vous faites un hors-classement dans ce cas-là. Qu'est-ce que c'est compliqué de faire partie rapide et Nintendo, impossible de sortir un truc bien sans gâcher un truc. Un truc qui va... Bref, insupportable.
Enfin, ça va, c'est... Ça va peut-être pas gâcher l'ensemble de l'expérience Super Mario Maker 2, quand même.
Évidemment, mais Là, en fait, il y avait vraiment une... Notamment parmi...
Moi qui n'ai pas d'amis. Tu vois, moi qui n'ai pas d'amis.
Oui, c'est vrai. Toi, tu as des enfants qui sont à portée, tu as bien de la chance. Voilà. Mais, mais non, mais le truc, c'est qu'il y avait, par exemple, plein de streamers que je suis, moi, qui jouent beaucoup à Mario Maker et qui, tu vois, se synchronisent, ils trouvent des astuces pour jouer ensemble, qui étaient très contents de se dire, là, on va pouvoir jouer ensemble à Mario Maker, ça va être sympa et tout. On n'aura plus besoin de hacker le jeu pour pouvoir jouer ensemble. Et ben, là, Nintendo avait une pub gratuite et s'offre un bad buzz tout aussi gratuitement, juste pour une décision idiote. Honnêtement, Nintendo a tendance à écouter ces dernières années, donc je pense qu'ils corrigeront ça dans un patch. C'est même très probable. Mais waouh, Nintendo, arrête de faire des décisions vraiment comme ça, ad hoc. On ne sait pas d'où tu sors. Arrête d'être en 1980. C'est bon, on est en 2019 maintenant. Sinon, il y a Rockstar dans le rayon des mauvaises nouvelles. Mais alors là, pour le coup, des mauvaises nouvelles. Des histoires tristes, des vraies histoires tristes pour le coup. Donc, il y a eu Rockstar, on les connaît là depuis quelques temps, malheureusement, pour des histoires donc, de crunch, hein, notamment liées à c'était quoi, Red Dead Redemption 2, hein, qui était sorti il n'y a pas longtemps. On a eu l'occasion d'en discuter dans Silence on joue. Là, il y a une autre histoire qui est sortie apparemment de, alors là pour le coup, de harcèlement sexuel. C'était un cadre, alors c'est bon, j'ai traduit comme j'ai pu, hein, mais vice-président du département produit, donc quand même un mec qui était assez haut placé dans la hiérarchie de Rockstar, qui aurait agressé Colin Bunchu, j'espère que je prononce bien son nom, et qui est designer, et qui lors d'une soirée, voilà, s'est fait toucher plusieurs fois. Et devant témoins, et il se trouve que ce groupe de témoins-là, c'était en 2014, a reporté immédiatement l'incident auprès du service RH. Et pour le coup, le service RH qui n'a rien fait, qui a même signifié donc à cette victime que il ne va rien se passer, que sa demande ne pourra pas, ils pourront pas accéder à sa demande, voilà, de plainte. Et le mec est parti de Rockstar comme ça peu de temps après, donc en 2014, donc c'était il y a un moment. Alors que notre ami donc Geronimo Berrera, puisque c'est son nom, lui est resté jusqu'à décembre dernier après une belle carrière de plus de 20 ans au sein de l'entreprise, donc il n'a pas été inquiété plus que ça, ce qui prouve encore une fois, mais alors pour le coup, c'est vrai qu'on revient un peu dans le passé de ça, et on savait qu'il y avait des problèmes de management chez Rockstar, ce qui prouve, voilà, qu'il y a vraiment des choses à changer dans cette immense usine à gaz qu'est Rockstar. Pour le coup, le mec en question là qui est accusé, il était aussi connu pour être un tyran, hein, au travail, d'être assez méchant avec ses subordonnés, d'être assez volatile.
Il abusait de son autorité. Quoi.
Voilà, il abusait de son autorité. Surtout, il était jamais sûr de ce qu'il voulait. Il était compliqué à cerner, donc a priori ça collerait bien avec un personnage un peu instable comme ça. Donc voilà, et bien entendu, il faut rendre à César ce qui est à César. Encore une histoire sortie par Jason Schreier de Kotaku, qui n'en est pas à son dernier, a priori, qui n'en est pas à son premier, a priori pas à sa dernière histoire, je sais pas d'où il sort, voilà, mais qui est souvent pour des histoires donc de management dans le jeu vidéo ou de scandale du genre. Bon, bah, bravo à Jason et Rockstar, il va falloir travailler cette histoire de.
Après,
de
si, c'est, si ça arrive chez Rockstar, ça arrive probablement dans d'autres grosses boîtes, comme c'est arrivé au monde de l'animation. Ouais. Il ne faut pas imaginer que parce que c'est du divertissement ou de l'art, on est.
En fait, ce qui est surtout choquant dans cette histoire, c'est même pas qu'à rigueur ça soit arrivé. Alors, c'est évidemment choquant que ça soit arrivé.
Mais c'est
que
la position de la RH.
C'est la RH qui derrière ne fait rien.
C'est l'impunité.
Parce que voilà, c'est si jamais ça s'était résolu en interne avec des punitions, enfin plutôt des sanctions. On aurait fait, bon, bah, malheureusement, c'est arrivé, mais ça a été géré par la boîte. Mais là, c'est vraiment l'inertie totale de Rockstar et l'aspect, c'est normal que ça soit arrivé, ou alors le mec est tellement haut qu'on n'ose pas le toucher, qui fait que c'est choquant, quoi. Alors, c'est sûr, c'est l'aspect grosse boîte, mais bon, là, en l'occurrence, ça arrive dans le monde du jeu vidéo, il faut le dénoncer tout autant, et c'est très bien que Kotaku l'ait fait.
Dans la catégorie l'industrie du jeu vidéo, ce monde extraordinaire, il faut aussi signaler ce qui se passe du côté de Blizzard France notamment. Donc Blizzard, on savait qu'ils avaient annoncé donc une suppression d'une partie
de son personnel en France.
De son personnel dans le monde et notamment en France. Hein.
Surtout en France, ils ont dit, hein, je crois, ils avaient bien insisté. Tiens, en France, on va bien en retirer du monde.
Voilà, donc merci. Les négociations et le plan social est en cours. Et donc là, il y a eu un communiqué de presse de Solidaire Informatique et de Game Workers Unite, hein, donc un syndicat international sur l'industrie du jeu vidéo, et donc qui condamne, qui dit vraiment que les choses se passent vraiment pas bien, que c'est assez scandaleux. On rappelle que c'est une entreprise qui est en très très bonne santé économique. Hein. Ce n'est pas du tout un plan social pour sauver l'entreprise. Ce n'est pas le plan de sauvegarde de l'emploi, tu sais. Oui, bah, il faut pouvoir licencier pour sauvegarder. Non, c'est, on est très, très, très loin de
cette
problématique.
Oui, ils ne lâchent pas du lest, quoi. Ils sont
au dans le ciel. Donc, il y a plusieurs choses qui sont condamnées et qui sont dévoilées en fait, par Solidaire. Notamment, donc, ils expliquent qu'une partie des postes supprimés en France, notamment au service clientèle, sont réouverts en l'état dans les bureaux irlandais.
Ça, c'est vraiment... Ça, moi, c'est ce qui me choque le plus, cette personne.
C'est assez dingue. Et que le plan social qui est en train d'être négocié, et enfin même pas négocié, qui est en train d'être annoncé, est un plan social complètement au rabais. C'est-à-dire qu'on est dans le... On rappelle, hein, dans le cadre,
du minimum légal.
Voilà, vraiment dans le cadre du plancher imposé par la loi, sachant que l'entreprise, on le rappelle, va bien. Ça fait des bénéfices, ça, tout va bien, tous les indicateurs sont en vert. Et donc voilà, il y a vraiment un refus donc de ce genre de licenciement de la part de Solidaire, et qui conclut son communiqué par non, en France, on ne peut pas licencier du jour au lendemain au bon vouloir des actionnaires et sans planifier une restructuration efficace de l'entreprise, ni permettre la plus grande réemployabilité possible des salariés sur le départ. Non, en France, on ne peut pas licencier des employés pour un motif économique sans mettre de l'argent sur la table si la santé financière de la société est au vert. Et ici, quel vert ? Voilà, donc c'était juste pour signaler, ce communiqué de Solidaire. C'est important, vous pouvez retrouver le communiqué sur solidaireinformatique.org. Quelle news autrement ? Alors, d'autres petites news très rapides. Journey qui débarque, on savait qu'il allait débarquer sur PC. On a une date aujourd'hui, c'est le 6 juin sur l'Epic Game Store à 15€.
L'occasion pour moi d'y jouer enfin, parce que j'ai jamais eu de PlayStation, donc malheureusement j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Donc
15€, et si vous aurez encore une semaine pour profiter du rabais Epic qui est encore en cours en ce moment, et ça donnera le jeu à 5€ au moment de sa sortie.
Peut-être le prendre, ouais.
Ce qui peut être intéressant. Dans la série des nouvelles rapides, Motion Twins qui confirme 2 millions d'exemplaires vendus pour Dead Cells.
C'est mérité.
Mérité, et bravo. Hein. Et il n'y avait pas vraiment de suspense, mais c'est officiel maintenant, l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, a entériné la reconnaissance d'un trouble du jeu vidéo dans sa nouvelle classification internationale des maladies, CIM-11.
Et si on repartait dans un débat de 2 heures, Erwan ?
Pas du tout.
Alors voilà, avec ce communiqué, alors parce que ça entérine donc des indications qui ont été données donc en novembre dernier.
Ouais. C'est la promulgation en fait.
Voilà,
c'est gravé dans le marbre.
Il y avait une petite chance peut-être qu'ils y renoncent, mais c'était pas, il y avait pas vraiment de raison. Et évidemment, donc toute l'industrie du jeu vidéo est vent debout et est scandalisée par cette décision. On va pas repartir dans le débat. Voilà, le com des coms de la semaine dernière, c'est sur, c'est une com des coms sur une sorte de rumeur news hein, qui est sortie. C'est Alan San qui parle. Donc là, c'est dans le topic blabla. Donc c'est pas par rapport
à l'émission précédente.
Il parle en fait des rumeurs hein, qui arrivent. Le Square Pass Premium qui permettrait de jouer à tous les jeux Square qui ont plus de 5 mois d'existence, mais surtout l'abonnement de FF14 serait compris dedans. Et l'autre rumeur, ce qui est l'Ubi Pass Premium qui serait éventuellement présenté à l'E3 et qui serait l'exact équivalent de EA Access avec l'accès au jeu direct et tous ses DLC et même en Day One. Et puis il rappelle évidemment qu'il y a Stadia qui va aussi rentrer dans la danse et Apple Arcade.
Écoute, je vais rajouter ça à mon abonnement Netflix, Disney+, et machin. Puis
non, mais c'est en fait, c'est
à la fin, je paierai autant que mon loyer.
Non, c'est juste pour dire que dans les forums, il y a eu un débat sur l'abonnement. Oui, non, peut-être. Alan San, lui, dit je vois deux gros avantages et deux gros défauts à cette évolution du jeu vidéo. Les inconvénients, c'est de l'abonnement, le jeu ne nous appartient pas. Et en fait, limitation aussi due au porte-monnaie où on se limitera à un, voire deux abonnements. Les plus, c'est la consommation de jeux peut devenir moins chère. Cela m'a permis, il cite son cas, de jouer à Battlefield 2 pour 15€ et de m'en lasser au lieu de l'acheter plein pot. Et cela va forcer les propriétaires de ces services à faire plus pour que soit plus de jeux qui sortiront au cours de l'année, soit un meilleur suivi de leur jeu pour que les gens gardent l'abonnement actif. Ils demandent qu'en pensez-vous. Il y a eu des débats.
Moi je vois un. Alors, j'ai pas vraiment d'avis. Enfin, je sais pas à quoi va ressembler l'univers du jeu vidéo, en tout cas, de comment on va acheter nos jeux vidéo demain. L'abonnement peut en effet ses avantages. Moi, je suis pas contre en soi l'abonnement. Mais par contre, que chaque éditeur le fasse comme ça, moi, ça m'embête un peu parce que vraiment, on se cantonne à un univers, à une façon de voir le jeu vidéo, sachant que quand même, quand on joue à un jeu
Square Enix. Le fait que plus personne regarde autre chose que les séries Netflix, c'est assez atterrant. Enfin, y a...
Oui, c'est vrai. C'est assez vrai ce que tu dis là. Mais à la rigueur, Netflix, pour aujourd'hui, tel qu'il existe aujourd'hui, alors ce sera peut-être pas le cas demain, mais tel qu'il existe aujourd'hui, Netflix permet aussi de voir des séries ABC, des séries d'autres networks. Là, je pense pas que Ubisoft compte vendre des jeux Square Enix. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça m'embête un peu cette histoire.
Ça rejoint donc l'avis de Red hein, qui réagit à ça. Lui, il dit « Perso, l'abonnement ne m'a jamais attiré, même Netflix. Je n'apprécie pas la concentration des idées. J'évite. Je trouve que ça nécrose la créativité. La seule valeur qui prime, selon moi, est le temps. Et donc, la quantité de titres sortis et les exclus, pas leur nombre ni leur économie. » Et Palmer dit « Je ne suis pas certain que les abonnements soient réellement un gain de quoi que ce soit. On se retrouve un peu pied et poing lié avec des plateformes sans avoir réellement la possibilité d'y échapper. Bien sûr, on peut toujours dire qu'on peut mettre fin à son abonnement quand on veut, mais en vrai, ce n'est pas ce qui se passe. Je suis d'accord avec Ray. De la plateforme unique, pour moi, tue l'inventivité. Toutes les séries Netflix que tu cites, c'est cité dans les posts précédents, auraient peut-être existé sans Netflix, mais plus encore, ça tue la curiosité. C'est de la télé avec une seule chaîne. L'essentiel des gens que je connais qui ont Netflix ne regardent plus rien d'autre. Et c'est ce que la plateforme propose, ne savent plus chercher ni découvrir en dehors de ce qu'on leur a on leur y montre. Voilà, donc c'est vraiment le type de
qui... pour moi, c'est vraiment la clé, quoi.
Ouais.
C'est l'envie de voir... l'avantage, c'est qu'on déconnecte le jeu ou la série du prix. Et du coup, on la juge vraiment sur ses qualités avec une radicalisation des trucs où, pour les séries, par exemple, on peut zapper à partir de la moitié du premier épisode et dire « Non, en fait, ça me plaît pas. » Du coup, on laisse même plus la chance au truc de s'installer. Mais l'inconvénient, c'est qu'effectivement, c'est un appauvrissement des horizons... qui est assez atterrant.
En fait, tant que le nombre d'acteurs est limité et qu'il y a des ponts qui se font entre les différents justement acteurs d'un même écosystème culturel, c'est pas trop un souci. Mais on sait ce qui va se passer, ça va se démultiplier, les catalogues vont devenir exclusifs et il y aura un problème. Et ça, il y aurait une solution assez simple pour corriger ça, c'est de simplement interdire l'exclusivité des contenus sur telle ou telle plateforme. Mais ça, on sait que ça n'arrivera pas. C'est pas demain la veille que ça va arriver. Quoi.
Tu veux dire remettre en question le capitalisme? C'est ça.
Peut-être. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est tu vois, quand tu vas voir un film au cinéma, que tu ailles au Pathé ou au l'UGC, c'est pas grave. Tu peux le voir, le film, il sort dans toutes les salles. On pourrait se poser la question, pourquoi ce serait pas le cas pour les plateformes de séries en ligne, quoi.
Ah oui. Non, mais après, c'est vrai que moi, je vois plutôt... Il y a un danger pour moi sur des plateformes plus comme Stadia. En fait, le truc, c'est que les plateformes des éditeurs, je ne vois pas de
légitimité. Stadia, on ne sait vraiment tellement rien que c'est difficile de...
Ou Apple Arcade, ou des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est des systèmes d'abonnement qui seront gérés par des plateformes qui auront un contrôle, un vrai contrôle éditorial sur le contenu qui est diffusé. Donc, en fait, c'est ce côté, on sera amené à ne plus voir ailleurs. Je pense que les abonnés à Stadia ou les abonnés à Apple Arcade, ils se contenteront de ce qu'il y a à l'intérieur. Les systèmes liés aux éditeurs, je trouve ça tellement fermé, même si les catalogues sont larges. On ne connaît pas encore les prix proposés, mais un abonnement à 10€ par mois au catalogue Ubisoft...
Non, c'est mort. Ils ne peuvent pas le proposer à 10€.
Même 5€. Enfin, c'est étrange. Enfin, y a un truc bizarre. Oui, mais ils ne peuvent pas le proposer à 10€, mais en même temps, tu achètes deux jeux Ubisoft dans l'année, ton abonnement est rentabilisé.
Si tu les achètes plein pot.
Si tu les achètes plein pot.
Ce qui n'est plus vraiment le cas. Fin...
Mais avec les DLC, avec tout ça, il y a peut-être un avantage. Enfin bref, on va
c'est
voir.
C'est un débat compliqué.
Le débat est intéressant. Mais bref, il est temps de rentrer dans le dur de cette émission avec quand même deux énormes titres du moment.
Des énormes petits titres.
Deux énormes petits... Ouais, quoi que le deuxième, il est pas si petit.
Non, c'est pas petit, mais c'est pas...
On va commencer avec Observation.
What is going on? I need the crew.
I know you're all afraid of what is happening. To the station. To us.
Captain!
And quite right, too.
Oh my god.
I just want you to know. Whatever happens next.
Sam!
Corentin,
oui,
Observation. C'est, tu l'attendais ?
Oui, ah ouais, je l'attendais de ouf. Bah, j'avais beaucoup aimé en fait leur précédent jeu, donc à No Code, le studio qui s'est occupé d'Observation, qui était Stories Untold, qui était ce jeu où on était devant des machines, différents types de machines, soit des vieilles consoles avec des jeux textuels ou bien des machines scientifiques, ce genre de choses, et des, donc des comment ça s'appelle, des interfaces très à l'ancienne, très cubriesque un peu, enfin comment dire, c'est vraiment des vieilles machines années 70-80 avec des gros boutons, des machins. Et du coup, dans Observation, la promesse était que, et du coup ça va me permettre de pitcher le jeu en passant, on allait incarner grosso modo une intelligence artificielle façon HAL dans 2001 l'Odyssée de l'espace, dans une station spatiale en orbite autour de la Terre, pour comprendre ce qui est arrivé à un équipage qui apparemment a été décimé. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, on suit une astronaute, Emma Fisher, et donc nous on est son intelligence artificielle, son Siri, qui s'appelle Sam, et à qui on donne des ordres, à qui on demande de faire des tâches, à qui on demande de résoudre des problèmes. Ce qui fait qu'on n'est pas libre de ces mouvements, on est un petit peu incorporel, je sais pas comment dire, on n'est pas
décorporalisé. Ouais. Ouais. Ce qui est la corporalité, c'est ce qui est un des trucs les plus dingues du jeu. Ouais. C'est de déconnecter le personnage d'une incarnation. Quoi.
C'est ça. Alors évidemment, il y a des moments où on va incarner des petits robots, des machins, mais dans l'ensemble, on est quand même un OS. Donc on se projette dans une caméra, puis dans une autre, puis dans une autre. On va naviguer d'interface en interface pour comprendre ce qui se passe. Mais du coup, c'est une façon de jouer au jeu vidéo qui est assez unique et qui est un peu déstabilisante au début. Parce qu'on a envie de se déplacer, mais on peut pas.
Et si, en même temps, c'est le rêve de tout voir en même temps. Tu es partout, t'as accès à tout le réseau de caméras de la station. Du coup, c'est vraiment un rapport complètement panoptique où tu vois tout en même temps. Tu peux te déplacer d'un endroit à l'autre en une demi-seconde.
En une fraction de seconde, ouais.
Ouais, c'est assez dingue de révolutionner le point and click comme ça, quoi.
Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai jamais perçu le jeu comme un point and click, plus comme un jeu de gestion, je sais pas, ou un jeu narratif de gestion, c'est bizarre. Ouais,
c'est, dans le fond, c'est un jeu narratif.
Oui, tu as raison.
Mais dans la forme, t'as ce truc de rechercher dans le décor avec le pointeur de ta caméra les trucs avec lesquels tu vas pouvoir interagir pour réparer un système de refroidissement de flotte ou réparer un moteur. Ou...
Donc, dans les faits, hein, on est dans une station spatiale et moi, je trouve que ça ajoute un côté super cool. Donc, les décors se ressemblent fatalement un petit peu. On est dans des endroits très exigus, dans des boîtes de conserve.
C'est la station spatiale, enfin, c'est l'ISS.
C'est à peu près l'ISS, ouais, voilà. C'est ça. Donc là, elle est assez particulière, cette ISS-là, puisqu'elle est composée de différents bras. Et comme c'est une collaboration internationale, on a un bras américano-européen, un bras chinois et un bras russe, et un noyau, on va dire, international.
Un hub
international, ce qui fait que c'est marrant, puisqu'on a les différentes façons de construire les modules qui sont très propres à chaque fois, à chaque nationalité, les modules chinois qui sont très... qui sont concentriques, très ronds, alors que les modules russes, il y a des poubelles accrochées avec des câbles. Enfin, c'est très différent en fonction de... Voilà, c'est différentes façons de voir la gestion spatiale en fonction des nationalités, c'est assez rigolo. Mais c'est assez intéressant parce que le fait de voir tout ça par des caméras donne un côté très... CCTV, très réalité, un peu ce qu'on pouvait avoir dans un horror story. On a vraiment un côté très réaliste, très presque documentaire, genre on a l'impression de regarder un flux vidéo réel de l'ISS.
Il y a un moment où je regrettais presque ça, c'est qu'ils aient pas fait le choix du FMV.
Ouais.
Parce qu'il y a quand on est en rapport avec de l'humain, c'est-à-dire avec ce capitaine Emma Fisher, il y a un petit gap en termes de qualité graphique.
Les visages sont pas ouf.
Et tout le reste est tellement magistral et génial de d'immersion. On a vraiment l'impression d'être dans de la vidéo, quoi.
Ouais, c'est vraiment impressionnant. Les textures sont bien réalisées, le jeu de lumière est très réussi. Le jeu commence, le plan de commencement du jeu, c'est à la Gravity, on va dire. C'est vraiment genre, on voit rien et puis il y a juste de la lumière qui passe et on voit en fait que tout le module dans lequel on se situe est dévasté, qu'il y a des morceaux d'objets qui volent un peu partout et on entend juste la radio avec Emma Fisher désespérée.
Je trouve que c'est vachement réussi parce que t'es d'abord happé par cette image de chaos, de noir qui envahit le module. T'as ensuite le son avec ce grésillement, ce rapport radio que t'as.
Houston répond pas.
T'as un truc de silence, de paroles dans le vide.
Stroboscopique avec la lumière qui passe, l'image qui change. Et c'est, après, y a une mise en scène formidable.
T'as l'incarnation du joueur qui est le BIOS qui se lance avec une grosse barre de téléchargement et toute l'idée, le mot-clé, tu l'as dit tout à l'heure, c'est interface.
Ouais, l'interface.
C'est le fait que pour une fois, on joue pas un personnage, on joue un HUD. On est juste une interface et C'est un truc complètement dingue dans le rapport au jeu.
Et comme il l'avait déjà très bien fait dans Stories Untold, c'est-à-dire comment le texte apparaît à l'écran, comment il va être affiché, il y a ce côté industriel en fait, hein, ce côté vraiment... ce n'est pas une interface de jeu, ce n'est pas là pour être drôle, c'est vraiment... Il y a plein d'informations à l'écran, elles sont centrées, mais en même temps très stylisées, c'est des polices sans sérif, très sobres, c'est très élégant. Et ce qui rajoute encore, tout ça est très cohérent avec l'aspect très réalité qu'on a avec justement les très belles textures, les jeux de lumière, ce qui te donne vraiment l'impression d'être dans cette station.
C'est l'effet qui est absolument dingue, et c'est exactement ce que vous dites, c'est que l'interface faisant partie de l'univers, et c'est avec cette interface-là que nous, on manipule, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sortie.
Il n'y a plus
de distance avec ce qui se passe à l'écran.
La diégèse est intégrée, le jeu est intégré dans la diégèse.
Tout est là.
Et c'est d'autant plus magistral que c'est un jeu narratif qui ne repose pas sur l'émotion. Ce qui est quand même excessivement rare, ce qui est excessivement dur à réussir. Et là, il y a une espèce de froideur du fait qu'on interprète une machine, qu'on nous donne des tâches qui sont à effectuer de façon presque mécanique, en suivant des listes et en réfléchissant assez bêtement. En fait, on a du mal à se projeter des fois dans des situations où il suffit juste de suivre les instructions à l'écran et de pas faire pas suivre des réflexes de joueurs. Et c'est assez impressionnant, quoi.
Alors après, tu dis qu'il n'y a pas d'émotion. Je mettrai une petite nuance.
Il y en a très peu, quoi.
Le jeu avance, plus il se passe quelque chose. Mais en fait, c'est là où on va peut-être parler un tout petit peu du scénario un peu plus. En tout cas, dans les thématiques, pas forcément dans les twists, mais parce qu'il y a quelques twists intéressants, et dont un très rapidement dans le jeu, que je ne vais même pas dévoiler parce que je le trouve ultra fort et ultra sympa. Vraiment, au bout de 30 minutes de jeu, on a le premier twist qui est vraiment fort. En fait, dans les thématiques à aborder, je pense que c'est important de le signaler, il y a un petit côté de mien. Il y a un petit côté...
Le jeu en joue... C'est impossible de ne pas penser à Hal et de ne pas se dire qu'à un moment, on va tuer des humains. Quoi.
et voir
des monolithes. ça, on joue, évidemment.
Voilà.
C'est plutôt intelligent dans sa façon de
faire le truc. Il y a un aspect science-fiction, mais aussi fantastique, mais sur lequel joue très bien le jeu. C'est-à-dire que ça en fait pas des tonnes. On va plutôt aller dans le côté, dans l'inconnu. C'est-à-dire que c'est pas du fantastique dans le sens, c'est pas de la magie, tu vois, ou c'est plutôt dans l'inexplicable. Il y a quelque chose qui est trop compliqué pour que nous, humains, ou même intelligence artificielle humaine, puissions comprendre ce qui se passe. Et c'est amené vraiment comme dans un 2001. C'est vraiment les mêmes ressorts, les mêmes effets de mise en scène. Mais du coup, ça marche très bien. Parce que tout ça lié...
C'est moins nébuleux quand même que 2001. En 2001, il y a quand même un truc...
C'est plus symbolique.
Compliqué à lire que...
On est moins dans la symbolique.
La fin est plus... La fin est plus finie, on va dire, que 2001, qui laisse beaucoup de place à l'interprétation. Mais je parlais surtout en fait de comment on t'apporte l'autre, comment on t'apporte la présence a priori extraterrestre face à toi, et comment on te la met. A priori, en fait, on n'en sait rien de ce qu'on a en face de nous. Et c'est ça la force de ce jeu, c'est que on n'en sait rien, on n'en sait jamais rien, on n'en saura jamais rien.
Oui, il y a peu de choses qui sont appuyées. C'est vraiment dans l'écriture, c'est minimaliste et élégant.
Voilà,
et bien foutu.
Donc en vrai, et c'est pour ça que je fais des liens justement avec 2001, parce que pareil, dans le monolithe dans 2001, finalement on sait pas ce que c'est, est-ce que c'est un extraterrestre, est-ce que c'est un truc du futur, on n'en sait rien, et il y a toujours le flou qui est laissé dans le jeu. Juste, on va être face à l'inconnu, à l'autre, et à qu'est-ce qui va avoir comme influence sur à la fois l'univers dans lequel il interagit, mais aussi nous en tant qu'intelligence artificielle. Et du coup, il va y avoir une évolution de l'intelligence artificielle au fur et à mesure. Et là, j'en dis pas plus parce que c'est forcément très intéressant, mais très rapidement, on voit que l'intelligence artificielle a des bugs, il y a des machins, et qu'il y a une évolution, en tout cas. Et ça, lié encore une fois à l'aspect très réaliste, froide du jeu, moi, je trouve ça fonctionne très bien. J'ai quand même des petites réserves sur le jeu. Et alors déjà, on va aller dans le chiant, mais dans le très technique. Moi, mon jeu a planté et mes sauvegardes ont été corrompues. Ça m'était pas arrivé depuis très longtemps.
C'est mis en abîme.
Alors, tu sais que j'ai eu le doute pendant un moment, j'ai fait non, mais c'est le jeu qui joue avec moi, je vais relancer, en fait, ça sera bon. Non, le jeu a planté, mes sauvegardes ont été compus, j'ai cherché sur internet, il y a d'autres gens à qui c'est arrivé sur PS4. Moi j'étais sur PC et je m'étais dit bon, c'est PC, c'est normal.
Ouais, moi j'ai rien sur PS4. Donc PS4 toute pourrie, ça va.
Il y a eu des mises à jour, j'ai l'impression que ça s'est amélioré depuis des mises à jour, mais attention, voilà. Et comme on est sur l'Epic Game Store, faut le préciser, et pas sur Steam, il y a pas le Steam Cloud pour vous sauver les fesses, donc malheureusement, voilà, ça peut arriver.
Après, le jeu est court.
Le jeu est plutôt court. Ouais, mais j'ai perdu deux heures quand même. J'étais un peu vénère. Ouais. Deux heures à devoir les refaire. Alors, une fois que tu sais où aller.
Oui, tu vas plus vite, j'imagine.
Tu vas un peu plus vite, mais bon, il a fallu s'y remettre. Le deuxième point, je pense que le jeu aurait pu être plus intelligent sur la manière de t'indiquer où aller à des moments vraiment on est perdu, on se met à faire du. On cherche des éléments. Yep. Ah, c'est arrivé à Erwan.
Non, il y a deux, trois moments comme ça où j'ai indiqué à Erwan des trucs à la con, quoi.
Ouais.
Des petits moments. Enfin, moi, je sais que j'ai bloqué pendant une heure sur un système de refroidissement.
Pareil,
j'avais tout
j'ai
compris.
Bloqué sur le système de refroidissement.
J'ai arrêté le jeu, j'ai été fumer une clope et là, j'ai eu l'idée de réessayer autre chose.
Les gens, quand vous en êtes à UN03, respirez un grand coup. Respirez un grand coup. La solution est là.
Restez dans la salle. Ne bougez pas. Parce que moi, j'ai fouillé toute la station.
Ouais,
ne bougez pas de la salle. Tout est dans la salle.
Tout est dans les menus.
Et tout est dans les menus.
Ah, alors non, alors ça, je l'ai compris tout de suite. Oui, mais moi, il manquait un des éléments du puzzle. Voilà. Il manquait un des éléments.
Ben moi, les deux. Voilà. Donc, ça a été long, ça a été un peu béni. Moi, c'est vraiment ce moment-là. Alors, c'est très bizarre parce que c'est un moment en particulier, c'est une mission en particulier, mais qui montre toute cette difficulté intrinsèque au genre du point and click, en fait. Hein. Tu dis le point and click, c'est évidemment ça. C'est-à-dire, il faut trouver suffisamment d'informations, d'objets, de choses avant de pouvoir résoudre l'énigme qui est sous forme de mission. Donc, on est vraiment sur les mécaniques de jeu issues du point and click. Et on voit cet équilibre qui est toujours difficile, c'est-à-dire ne pas aller dans l'évidence pour donner aux joueurs cette impression de faire et de résoudre. Et en même temps, quand on cache trop, quand on essaie de ne pas être dans l'évidence, il y a toujours ce moment où, si c'est fait un peu approximativement, le joueur est perdu et on est...
C'est ce qui arrive, mais surtout que ça aurait, pour le cas du système de refroidissement, ça aurait pu être résolu assez facilement, oui. Avec une Emma Fischer, donc, qui est toujours en contact radio avec toi, et qui aurait pu te dire « Sam, je suis sûr que tout est disponible dans la salle, fouille bien !» Tu vois, genre, et moi, ça m'aurait suffi pour me dire, bon, j'ai raté un élément dans la salle, je vais vraiment fouiller à ça. Parce que moi, j'étais déjà parti en me disant, l'autre élément qui me manque, parce que je savais qu'il me manquait un élément, je savais qu'il me manquait un morceau de quelque chose. Et du coup, j'étais parti dans d'autres modules pour le chercher. J'ai fouillé tous les ordi, j'ai fouillé tous les trucs.
Moi, pareil.
Ça, et j'ai perdu beaucoup de temps.
Ça, il n'y avait pas de problème, j'avais résolu toute l'énigme, mais il me manquait juste le point de départ.
Il m'a manqué le point de départ,
quand
il m'a manqué le truc en plus, enfin bref.
Et surtout, le tout est bien intelligemment intégré grâce à un système de réponse qui est très bien branlé. Donc en fait, moi je trouve qu'il est... Qu'est-ce qu'il y a ?
Oui, mais...
Ah oui, c'est ça qui t'a...
Oui.
Bon, ouais, il y a un élément de réponse qui est sympa, mais en fait, c'est la mise en abîme de ce même mécanique, et on va peut-être l'expliquer, comme ça les gens ne seront pas bloqués. Mais grosso modo, en maintenant une touche, la gâchette gauche, on active le mode réponse. Et là, en pointant du doigt un élément, ça permet
de... On peut interagir avec...
Voilà. On peut, en fait, répondre à la question qu'on t'a posée. Par exemple, Sam, donne-moi... est-ce qu'il y a des dommages structurels sur le module dans lequel je me situe ? Et toi, en fait, t'es à l'extérieur, t'as la caméra, et tu indiques... tu maintiens la gâchette et tu dis « Oui, il y a des dommages
superficiels. »
Tu fais bien, Sam. Hein.
Oui, Emma, il y a des dommages superficiels. Bref, et donc tu lui réponds en maintenant ce truc-là, et pas simplement en allant vers truc et dire répondre. Mais ça, on peut le faire aussi dans le hub lui-même, c'est-à-dire qu'on peut aller dans les menus et maintenir les gâchettes, et ça, c'est ce qui...
Ça, c'est un peu vite, là.
C'est ce qui a pu te manquer. Donc il faut bien penser à se dire, ce mode-là de réponse fonctionne partout, et c'est aussi l'intelligence.
Après, les petits casse-têtes sont pas horriblement difficiles.
Non.
Et voilà.
Mais on peut se mettre
à... Ça gâche pas le plaisir.
Voilà, non, mais c'est juste très très belle réussite.
Juste
oui,
indiquer quand même qu'il y a un travail sur le son qui est complètement ouf, malade. Et à la fois sur l'absence de, enfin sur le son et l'absence de son. Il y a des moments où le jeu est horriblement silencieux. C'est vraiment le vide de l'espace et ça en devient presque angoissant. Enfin, on ressent bien le côté machine. Moi, j'ai le souvenir de relancer des fois les indications d'Emma juste pour avoir une petite présence un peu humaine.
2001,
quoi.
Ouais. 2001 encore.
Ouais. Moi franchement, aussi, je trouve qu'une des belles réussites qui note en fait sur l'aspect narratif, il y a évidemment ce truc, cet équilibre que je trouve vraiment intéressant. On est dans un moment de l'intrigue, entre guillemets, où on va devoir d'un côté... être dans le puzzle narratif quelque part, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et en même temps découvrir ce qui est en train de se passer. Et moi, je trouve que les deux se marient bien, c'est-à-dire qu'on est, dans cette double temporalité de la narration où on reconstruit le puzzle de qu'est-ce qui s'est passé avant, et en même temps, y a des choses qui se passent, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui... C'est en même temps dans le présent, dans le passé, et je trouve que là-dessus, ajouter à ce que tu disais sur l'interface et tout l'ensemble qui était intégré à la diégèse du jeu, moi qui m'a beaucoup rappelé Her Story dans l'interface, parce que Her Story c'était ça, on jouait quelqu'un un personnage qui était devant un ordinateur qui essayait de reconstituer des interrogatoires. Donc
là c'est la grosse tendance de tous les jeux en ce moment qui sortent. On a parlé de Katana Zero, pareil, on essaie d'intégrer dans la diégèse le fait qu'on meurt. On a parlé de Hypnospace Outlaw, où pareil, on est devant un navigateur.
Do Not Feed the Monkeys.
Do Not Feed the Monkeys. J'ai l'impression que la grosse tendance actuelle.
Là, on est le navigateur, quoi. C'est quand même un peu plus.
Ouais, non,
classe,
mais.
Quoi.
Oui, mais on est dans une tendance actuelle de.
Ouais, bien sûr.
La diégèse doit tout englober. Ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne idée. Enfin, on ne pourra pas le faire éternellement. Mais,
non, mais surtout, ça ne marche pas pour tout.
Voilà, ça ne marche pas pour rien.
C'est une très belle piste.
C'est une piste que j'aime bien.
C'est
dans ce cadre-là, je trouve ça presque dommage de permettre aux joueurs d'incarner une sphère. De s'incarner à travers un petit objet.
Fallait bien aller dans l'espace.
Oui, mais...
et se perdre partout. Je suis le seul à me perdre dans cette foutue station, parce que moi, j'arrivais jamais
dehors, à l'extérieur. Les trucs, c'est chiant.
À l'extérieur, c'est... Bref, observation sur PC, PS4.
Attention, PC, c'est sur Epic Games Store.
Voilà, et PC, PS4, pas de version Xbox One pour l'instant. Et je crois que c'est une vingtaine d'euros.
C'est très exactement. Je l'ai noté. Observation, 21 euros, mais en ce moment il est à 9 euros sur l'Epic Game Store, voilà. Grâce aux Epic Big Sales machin, bref.
C'est le moment d'accueillir la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy.
Salut Erwan. La semaine dernière on avait parlé de futur alternatif avec du post-apo, cette fois-ci on va parler de passé alternatif avec du pré-apo. Le jeu s'appelle Draftosaurus, il vient tout juste de sortir et vous l'avez compris, les dinosaures sont parmi nous. Alors quand je dis parmi nous, ils sont quand même parqués dans des enclos, dans des zoos. Hein. À la base le truc est censé être plutôt bien organisé. Et nous les joueurs, il faudra qu'on gère tout ça pour pas que ça parte en sucette. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas dans Jurassic Park, les dinosaures ne mangent personne, ils mangent pas les autres dinosaures non plus, tout va bien. Alors si le jeu s'appelle Draftosaurus, c'est parce qu'il y a une mécanique de draft. Vous savez, c'est le fait de choisir une carte et ensuite de passer sa main à son voisin de gauche qui va ensuite lui-même choisir une carte, etc., etc. On avait déjà chroniqué des jeux de ce type, si vous vous rappelez, avec Neom par exemple, mais là on va pas drafter des cartes dans Draftosaurus, mais des petits personnages, des petits dinosaures en bois de 6 couleurs différentes, 6 espèces. Je suis pas 100% certain, mais je pense reconnaître des Diplodocus, des Critosaures, des Triceratops, des Brachyphorus, des Diracodons et évidemment des T-Rex qui, eux, ne rapporteront qu'un point supplémentaire s'ils sont dans un enclos. C'est vraiment un bonus tout gentil, tout mignon. Moi, je trouve ça carrément décevant. Les joueurs vont recevoir des plateaux individuels sur lesquels sont dessinés 6 enclos. 3 des enclos sont en forêt, les 3 autres dans des plaines, et tous ont des contraintes spécifiques. Dans le premier, il faut mettre des dinosaures de la même espèce, dans le second, des dinosaures d'espèces différentes. Plus vous poserez de dinosaures dans ces 2 enclos, et plus graduellement vous obtiendrez des points à la fin de la partie. Dans le troisième, on met des couples, dont des dinosaures 2x2. Chaque couple, là aussi, va vous donner des points. Dans le quatrième enclos, les dinosaures doivent être exactement 3 à la fin de la partie, d'ailleurs, quelle que soit l'espèce. Dans le cinquième enclos, vous ne posez qu'un seul dinosaure, mais il faudra être le joueur avec le plus de cette espèce de dinosaure à la fin de la partie pour marquer des points. Et enfin, le sixième enclos, dans lequel, là aussi, on ne pose qu'un seul dinosaure, il faudra que ça soit le seul dinosaure de cette espèce dans tout le zoo, sinon vous ne marquerez aucun point. Et enfin, pour corser tout ça, au début de chaque tour, on va jeter un dé qui va vous rajouter une contrainte de pose sur des terrains spécifiques ou sur un lieu particulier du zoo. Draftosaurus est un jeu familial par excellence. Il est simple à expliquer et simple à comprendre. Il est joli, il est pas trop long. Un quart d'heure tout au plus, ça marche à partir de 7-8 ans pour 2 à 5 joueurs et c'est édité chez Ankama. Les auteurs, c'est la team Keidema au complet, pour ceux qui connaissent, Antoine Bozac, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Il vient vraiment d'arriver, il est dispo partout dans les boutiques spécialisées, vous pouvez y aller tranquille, c'est un super jeu. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler des seuls jeux qu'on arrive à chroniquer en moins de 2 minutes chez Silence on Joue, les jeux de plateau. Bye bye.
Certes.
Wow. meilleure façon de réagir, certes.
Ok, non, c'est bon. Merci Jérémy. À la semaine prochaine. On a un peu tardé à l'aborder celui-là. On s'est donné le temps. On aurait pu en l'aborder peut-être une ou deux semaines avant. Bref, on a préféré garder parce que pour moi, ça a été une belle surprise. C'est A Plague Tale Innocence.
Pour la dernière fois, où est votre fils ?
Amicia !
Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez.
Tuez la sœur ! Prenez le garçon vivant!
Tu dois le protéger, Amicia.
Idiot, quoi? Je suis pas idiot!
Plague Tale, Innocence, jeu qu'on a vu, qu'on voyait des images, il y avait pas mal de choses qui sortaient. On pouvait être très impressionné par la DA depuis assez longtemps. C'est un jeu qui faisait envie à ce niveau-là. Il y avait ce doute sur l'ambition du jeu. On ne savait pas trop à quel niveau il se situait en termes d'ambition, le jeu d'Asobo. Et là, pour moi, ça a été une vraie surprise dès la prise en main, c'est de me rendre compte du niveau auquel il se situait. On est au niveau d'un très gros triple A, en fait. Je ne sais pas si tu as eu cette impression.
D'un point de vue graphique, ouais, il envoie. Tu n'as pas du tout l'impression que c'est une équipe d'une quarantaine de personnes près de Bordeaux qui a fait ça. Ça sent plutôt l'exclusivité console d'une grosse équipe. Et on est juste rattrapé par des effets de réel qui tiennent à l'animation, où on voit par moments, par exemple, quand on recule le personnage, qui n'a pas exactement la richesse de moyens que peuvent avoir les plus gros AAA, mais franchement, le jeu, il a de la tronche, quoi.
Il a pas grand-chose à envier aux très grosses sorties annuelles des exclus consoles.
Surtout quand on est
à ce niveau-là, en fait.
Quelques jours avant.
Oui, bon, ouais. Alors...
Et pourtant, j'ai bien... Enfin, je suis plutôt du camp des... Enfin, je défends un petit peu Days Gone.
Mais ceci dit, voilà, moi le rappel, et puis qui est pas du tout anecdotique, mais on est sur la catégorie de jeu The Last of Us. C'est quelque chose, moi, en tout cas, le jeu proposé, enfin l'univers proposé, la façon de jouer m'a évidemment rappelé ça. Et est-ce que tu peux nous introduire, dans le Plague Tale?
C'est un conte médiéval qui nous met dans la peau de deux enfants qui sont bien nés, qui sont fils de seigneurs d'Aquitaine.
Amicia et Hugo.
Voilà, surtout Amicia, qui est une jeune femme de 15 ans, quelque chose comme ça. Tout débute très bien, par un belle fin d'été aux couleurs rasantes. C'est riche, c'est rouge, c'est beau.
Les premières minutes sont belles.
On se promène dans les bois, c'est très sympathique. Et puis l'Inquisition débarque, tue nos parents. Et nous laisse tout seul dans la merde, avec un petit frère qu'on connaît à peine, qui a une maladie dont on ne connaît pas trop l'origine, qui tient au sang, et qu'on est chargé de protéger et en même temps de découvrir. Du coup, c'est assez sympa. Enfin, c'est plutôt bien fait dans l'écriture, dans la façon de faire ressentir aux joueurs des sentiments qui sont finalement synchronisés sur ceux d'Amicia.
Yes, c'est bien pensé. C'est vrai qu'on a cette relation qui... Ça aurait été gênant finalement d'avoir une relation entre une sœur et son frère qui se connaissaient, machin. Là, il y a cet inconnu qui est là entre les deux personnages et donc qui est normal de ressentir en tant que joueur.
Ouais, ça marche très bien.
Il y a une sorte de parallèle qui est très efficace.
Et du coup, cette histoire s'écrit autour du motif de la fuite, puisqu'il s'agit d'échapper à des soldats, qu'il y a un évident déséquilibre des forces avec tous ces soldats, puisqu'on est deux enfants. Et que du coup, ça s'écrit un petit peu comme. Comme tu disais sur The Last of Us, c'est surtout de l'évitement, de l'infiltration ou de l'exfiltration. Moins pour aller buter des gens dans le dos que pour les détourner et se créer des chemins et fuir. Et à cette menace-là s'ajoute une touche de fantastique qui est une image de peste à travers des océans noirs de rats qui dévorent tout, mais littéralement. C'est-à-dire qui bouffent les gens, qui bouffent les animaux... et qui laisse toute la campagne environnante dans laquelle on fuit complètement dévastée, et qui nous oblige à nous rattraper à un truc très primal qui est le feu. En gros, c'est pour éloigner les bêtes, il faut du feu, en allumer ou l'atteindre pour se protéger.
C'est un élément, moi, ce que je trouve très, très bien construit. Donc, d'une part, on est embarqué graphiquement, déjà. Enfin, je trouve qu'on est directement à l'intérieur, par la lumière, par les jeux de lumière, par l'ambiance,
par la musique.
Par la musique de Rivière, donc, aux commandes. C'est vraiment, vraiment une réussite totale à ce niveau-là. Donc, on est embarqué dans cet univers très, très sombre. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de joie de vivre dans le Plague Tale.
Non, clairement pas. Et après, le jeu n'offre pas une diversité de gameplay complètement folle, si on est obligé d'être... Pendant plusieurs heures, il s'agit vraiment d'éviter des gens ou de trouver des petites astuces, parce qu'on est muni d'une fronde qui sert à attirer l'attention des autres en jetant des pierres à l'autre bout des niveaux.
Il y a un crafting minimaliste, dire. On n'est pas sur des branches, des arborescences et tout ça. Il y a une sorte de mini-craft qui est très... Moi, moi finalement je me suis retrouvé très à l'aise avec alors on parlait d'une interface qui était très intégrée à l'histoire pour observation. Là c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on est très dans un jeu vidéo. Finalement, on est dans un classicisme de gameplay, de détournement d'attention des gardes, on va trouver un objet pour aller d'un point A à un point B, une torche, une façon de faire de la lumière, de tout ça, parce qu'il y a trop de rats et ce genre de choses. Finalement, on est dans un gameplay dont les mécaniques sont très explicites.
Oui, tellement connu qu'on n'a pas besoin... Enfin, le jeu propose de désactiver le HUD dès le début, ce que j'ai fait, et effectivement, à aucun moment... on a besoin d'avoir d'informations supplémentaires pour nous guider.
Mais ce qui fait aussi que on a ce savoir-faire, on va dire, entre guillemets, à la Naughty Dog, hein, qui est de jouer sur les éclairages, de jouer sur les plans de caméra, de jouer sur pas mal de choses qui vont indiquer d'une manière organique qu'est-ce qu'il faut faire. Et on est très rarement perdu, en fait. Moi, il y a quelques fois où je me suis dit, mais je ne dois pas faire la même chose parce que j'étais en mode course-poursuite, j'étais coursé par des gens et les gens, me rattrapait tout le temps, donc je me suis dit, mais j'ai oublié de faire un truc, j'ai oublié de faire. Mais finalement, mis à part ces quelques passages, mais qui sont normales sur un jeu qui propose une douzaine d'heures d'aventure, entre 10 et 15 heures, c'est normal d'avoir des petits passages, heureusement, de mort et d'échecs. Mais pour le coup, on a quelque chose qui est. On est chez soi, on est dans un système de gameplay qui est connu avec ses indications. Quand on vise au bon endroit, le réticule se met au jaune. Ces indications sont. Et moi, je trouve ça pertinent parce que finalement, ça permet de donner cette impression de jeu. On joue, on est dans l'interactivité et en même temps, on profite de l'environnement, on profite de l'univers, on profite de l'histoire. Je ne sais pas si c'est ça qui.
Si, clairement. Mais après, voilà, moi, le jeu tient bien parce que son histoire et sa façon de la raconter est extrêmement chouette pendant 6 ou 7 heures et qu'on remarque pas trop en fait qu'il n'y a pas un gameplay de fou, qu'on fait toujours un petit peu la même chose. Et l'heureux déséquilibre du jeu, c'est que pile au moment où il va ouvrir son gameplay, où on va avoir l'opportunité de faire, d'aborder les scènes de façon différente, d'être plus ou moins agressif, de détourner l'attention ou de jeter en pâture des soldats aux rats. Ça correspond à un moment où l'histoire, elle, commence un petit peu à être plus lourdaude. Ou en tout cas, on n'est effectivement pas les premiers à en parler. Tout le monde est extrêmement laudateur autour du jeu. Moi, je trouve qu'il y a quand même un personnage central de méchant qui est encore très faible et qui est dans le déséquilibre par rapport à la qualité de l'écriture du reste. Là, on est vraiment dans du Gargamel un peu grotesque. Et l'avantage,
à la médiévale, finalement.
Ouais, et qu'on est des petits schtroumpfs. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Mais bon, voilà, l'avantage, c'est que le gameplay prend le relais à ce moment-là et devient plus jouissif, plus agréable, en tout cas.
Et alors dernier peut-être, enfin encore un mot sur tu l'as évoqué, hein, sur l'univers. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cet univers dark fantasy pur, hein, c'est-à-dire que on est confronté à du fantastique. On sait qu'il y a du fantastique. On n'est pas dans un univers normal, mais le fantastique ne prend pas le dessus.
Jamais grotesque.
On n'est pas confronté à des magiciens. Il n'y a pas de dragons.
Dark fantasy. Hein, du coup, je dirais juste moyenâgeux obscur, mais. Oui, mais il y a une touche de fantastique, mais tu ne sais pas à quel point ça va être important.
Oui, c'est pas de la dark fantasy. T'as raison. Mais il y a ce fantastique médiéval, mais c'est pas du médiéval fantastique dans la
pendant
catégorie.
Pendant longtemps, moi, j'ai craint justement l'arrivée d'un personnage un petit peu le magicien qui va. Ouais. Dieu merci, non, le jeu est plutôt dans la
retard. Et voilà, il y a un truc qui tient, qui permet. Et c'est sombre. Moi, j'ai trouvé qu'il y a un côté évidemment gore, un côté un peu sanglant et un peu hardcore dans certaines scènes, notamment on est quand même dans une époque de peste avec des rats et tout ça. Donc voilà, l'imagerie n'est pas forcément. Elle est plutôt noire. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas. C'était d'une part graphiquement très bien rendu et c'était pas exagéré, c'est-à-dire que c'était justifié par l'univers dans lequel on était. Il y a pas ce gore un peu lourdeau dont est capable le jeu vidéo parfois. Là tout est puis, cohérent en fait.
Et puis surtout, même s'il y a une violence qui est graphique avec les rats et le fait qu'ils peuvent te bouffer à tout moment, je trouve que la violence elle est plus dans les décors, dans la façon dont on te peint un monde qui est complètement détruit, mais pas forcément en plus par cette menace-là. C'est juste un champ. Parfois, on traverse des champs de bataille, mais après la bataille, et c'est une espèce de vue de désolation totale qui finement vient se mettre en rapport avec, avec les émotions des personnages. Et je trouve que c'est assez chouette de
ça. Ça peut rappeler éventuellement certains décors qu'on pouvait croiser dans Breath of the Wild un petit peu sur la désolation.
Non, parce que Breath of the Wild, on a un recul par rapport, aux images.
Là, ça vient d'arriver, là.
Là, on est là.
T'es moins dans la ruine et dans l'image d'une civilisation.
On est dans
passée,
le charnier, en fait.
Les cadavres sont encore chauds.
Oui, voilà, c'est ça.
Dans un paysage après la bataille qui n'a pas été nettoyé, quoi.
Et donc, on est vraiment. Moi, ça m'a rappelé, évidemment, je l'avais sur le bout. Je l'avais, et là, je viens de le perdre. Et ce formidable jeu qui se passait à Dubaï après.
Spec Ops The Line.
Voilà, il y avait des choses comme ça sur Spec Ops. Alors Spec Ops, c'était un jeu contemporain, donc il y avait un effet de réalisme qui était autre, mais dans cette utilisation finalement de la désolation de l'image un peu lourde et qui provoque des choses chez le joueur, en fait.
Je trouve que c'est vraiment fait finement, c'est pas juste un plaisir de monde post-apocalyptique, quoi. C'est vraiment bien amené, et je voudrais redire un mot sur la musique qui est pour la première fois, ça fait longtemps qu'on a noté le nom d'Olivier Desrivières, qui était impressionnant avec Remember Me,
avec Vampire,
mais à chaque fois les jeux étaient pétés. Et là, je trouve que ça fait plaisir d'avoir un truc, de voir l'intelligence qu'il a dans sa musique. Dans Remember Me, c'était ce truc du glitch, de mélanger l'orchestral et le glitch qui venait enrichir l'environnement. Là, il y a une scène, moi, qui m'a complètement retourné au niveau de la musique. Je me permets de la spoiler, on va dire. Parce que c'est au début du jeu.
En termes de gameplay.
C'est juste, c'est une course-poursuite entre Amicia et son petit frère dans les rues d'une petite cité médiévale avec des ruelles vraiment très étroites et tout ça. Et là où on s'imagine une musique assez stridente, assez dans le stress, parce qu'il faut courir, il faut réussir à la rattraper, la musique est au contraire extrêmement mélancolique. Et il y a un truc de gravité totale qui s'impose par la musique, qui t'annonce que de toute façon, quand tu le rattraperas, ça se passera pas bien, qui est complètement dingue. Où tu cours après un objectif que tu sais que tu vas rater, t'as vraiment l'impression d'avoir le destin qui se met en branle à travers la musique. Je trouve ça magistral.
Ça me rappelle Twilight Princess, là. Il y a une scène où justement on doit amener... Non mais je rigole pas. Il y a une scène où on doit absolument apporter de toute urgence un personnage qui est mal en point à quelqu'un qui va peut-être pour le guérir, on n'est pas sûr. Et on a du piano très doux.
La musique est vraiment très très chouette.
En tout cas, très très grosse réussite d'Azobo. Vraiment, pas grand chose à dire.
Un petit peu.
Énorme surprise, parce que c'est le genre de jeu où on est toujours habitué, parce qu'il y a cette ambition de AAA et on a toujours l'impression que ça va être cassé à un moment. Et non, ils tiennent avec les quelques défauts qu'on a pointés. Mais vraiment,
ça gâche pas le plaisir.
Ça gâche pas le plaisir. On est vraiment sur une expérience de très très haut niveau. Une expérience d'exclu de console, très étonnant, très très étonnant.
Après, il faut peut-être pas en attendre non plus, faut pas faire miroiter un jeu complètement parfait et magique, mais c'est un jeu intelligent et bien construit.
C'est un jeu qui est à la hauteur, j'ai l'impression, moi, de ce que j'en ai compris, c'est que c'est un jeu qui est à la hauteur de son échelle, qui met les moyens là où il faut, de manière intelligente, par rapport à ce qu'il essaie de faire et par rapport aux moyens qu'il a. Je trouve que c'est parfois mieux qu'un jeu qui déborde de moyens et qui ne sait pas quoi en faire.
J'ai l'impression qu'ils vont au-delà de leur ambition initiale. En tout cas, je ne sais pas s'ils avaient cette ambition initiale à l'origine, mais là, franchement, moi j'ai été vraiment épaté par la proposition. On va terminer avec Alt Frequencies des Accidental Queens.
Are you saying shots have been fired?
I have no confirmation on this as of yet.
If anybody is listening, our broadcasting room is currently being invaded.
Stop broadcasting now!
Are now trying to chain themselves to one of the polling booths.
The loop could influence your daily life.
Reports of terrorist threats.
The time loop scandal.
That will make no sense.
Keep listening.
Sit up a bit.
Break free from the
time loop.
Corentin.
Oui, merci de me lancer dans le bain comme ça de manière violente.
Allez.
Alors, Alt Frequencies par Accidental Queens, qu'on connaissait déjà de Normal Lost Phone, qui était donc ce jeu où on trouvait un téléphone et on essayait de comprendre ce qui s'était passé et éventuellement son propriétaire, et se déplier comme ça une histoire assez tragique que je ne vais pas forcément dévoiler si vous comptez faire le jeu un jour, mais qui était dans l'ensemble plutôt intéressant et plutôt l'exercice était plutôt réussi malgré quelques légers défauts.
On était là dans le puzzle narratif façon Her Story.
Voilà.
exactement. Et voilà. C'était bien pensé, en fait.
C'était plutôt bien pensé. À titre personnel, je trouvais que l'histoire pouvait par moments être un peu limite. Et malheureusement, dans ce nouveau jeu, donc il y a eu un autre jeu
Another
avec un téléphone, Another Lost Phone. Et là, on est dans un nouveau jeu, vraiment nouveau concept de la part d'Accidental Queens, qui s'appelle Alt Frequencies, qui va se baser sur un autre appareil. On reste dans une thématique où on est focus sur un appareil en particulier. Et cette fois-ci, c'est le poste de radio. Alors, par les temps qui courent, le poste de radio a un petit peu la cote, en tout cas, du côté. Voilà, poste de radio. Non, mais voilà, on est quand même dans une dynamique podcastienne, radiophonique en ce moment, qui est assez forte. Et on peut se dire, c'est sûrement cette dynamique-là qui aura pu inspirer éventuellement les Accidental Queens pour faire ce jeu-là. Donc, on est face à un poste de radio qui va diffuser, en fait, la même boucle de programme sur différentes stations. Parce qu'apparemment, il y a une boucle. Il y a une boucle qui s'est mise en place, on ne sait pas trop pourquoi, mais à la radio, on évoque qu'il y a une boucle temporelle sur laquelle on doit voter en fin de semaine. Ah, est-ce qu'il y a le gouvernement qui veut instaurer une boucle temporelle ? Et pourtant, c'est bizarre parce qu'on a l'impression quand même que la boucle est déjà en place. D'ailleurs, il y a des stations pirates qui me disent « N'écoutez pas le gouvernement, ils vous mentent, la boucle temporelle est déjà en place. » Bon, très bien, et du coup, on doit interagir avec ce poste de radio. Alors là, tu me dis « Mais comment on interagit avec un poste de radio, mon cher
Corentin ?» Mais comment on interagit avec un poste de radio, mon
Merci,
cher
Corentin ? Merci, tu es d'une assistance parfaite. Par la magie de la radio, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc là où par exemple Do Not Feed the Monkeys va être intelligent, il va te dire de passer un coup de fil, d'aller sur internet, de faire des recherches, de, je sais pas, faire des trucs en dehors de ce que tu es en train de faire et ce avec lequel tu n'étais pas censé avoir d'interaction, en l'occurrence des caméras de sécurité dans Do Not Feed the Monkeys, là dans un poste de radio avec Alt Frequencies, et ben là si, on peut quand même interagir avec la radio, avec l'animateur directement et d'une manière un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer des morceaux de radio pour l'envoyer à l'animateur.
Diffuser, ou... ouais, c'est très, très, très étrange.
C'est très bizarre. Et avec ça, donc, on va pouvoir changer en fait le fil de l'émission. Donc par exemple, on aura des émissions, ce sera plus c'est vrai que on peut l'imaginer, par exemple une radio libre pour les jeunes avec alors Jim comme ça
raconte-nous ton histoire de ouf.
Voilà, raconte-nous ton histoire de ouf, j'allais dire une chose horrible, mais ouais, bah, vraiment radio libre façon jeune qu'on peut entendre sur Fun Radio Énergie, on est tous passés par là, c'est ma jeunesse. Ne me jugez pas, OK? Mais du coup, on peut imaginer oui que bah on puisse enregistrer un morceau de conversation, le diffuser, faire comme si c'était une réaction radio. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait par téléphone avec un système de... C'est bizarre, ça marche pas, on n'arrive jamais à rentrer dedans, ne serait-ce que dans le système de jeu en lui-même, c'est chelou. C'est jamais expliqué pourquoi on peut comme ça envoyer des morceaux à la radio, parfois des radios nationales, type je sais pas, des fois c'est littéralement France Inter ou France Info, et on peut balancer comme ça un morceau de radio, et le mec réagit « Oh, on m'envoie un extrait bizarre, moi journaliste avec carte de presse numéro 788349, je vais chercher la vérité car c'est ma destinée. » Je suis pas très loin de ce qui se passe réellement à la radio.
À la limite, une fois qu'on a accepté l'interaction qui est bizarre et pas forcément agréable, le vrai problème, enfin moi j'ai pas joué longtemps, mais le vrai problème c'est l'écriture. Il y a des moments mais où des trucs, enfin moi je suis tombé sur des réactions qui m'ont littéralement empêché de continuer à jouer parce que on pouffe devant le truc tellement c'est con et puis voilà, c'est mort.
Oui.
Enfin, on peut plus croire à cette histoire une seule seconde. Et puis voilà.
C'est
moi
vrai.
J'ai joué une trois quarts d'heure, une demi-heure, et ça m'a suffi.
On s'est amusé, malheureusement. C'est vrai que l'histoire est faible. L'histoire est faible. Les dialogues sont pas très bien écrits. Malheureusement, je vais être un peu dur, hein, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient assez écouté la radio pour écrire des dialogues de radio. C'est pas des dialogues de radio ce qu'on entend. C'est chelou. C'est une personne.
La radio de news façon France Info, ça va, c'est à peu près carré.
Je trouve pas. Je trouve même pas. C'est, on dirait de la télé à la radio.
Ouais,
c'est bizarre.
Peu.
C'est
les radios campus. Les trucs de jeunes qui sont censés être dans un parler très normal, il y a des phrases, mais juste.
Ouais, tu les entendras jamais.
Quoi.
En fait, t'as l'impression que c'est des gens qui racontent ce qu'ils s'imaginent être les radios qu'ils décrivent.
Ouais.
Et du coup, ça marche pas parce que c'est ultra caricatural. Tu vois immédiatement les ficelles, tu vois là où ils veulent en venir, d'autant que parfois les dialogues sont écrits pour t'indiquer ce que tu dois enregistrer légèrement, mais c'est flagrant, c'est vraiment flagrant. Et du coup, Alors certes, c'est pas un jeu qui est censé être là pour être ultra compliqué, mais du coup, ça nuit vraiment à la narration sur un scénario qui, en plus, qui tient pas la route deux secondes. Ta suspension consentie d'incrédulité, je peux te dire qu'elle fait des bonds dans le ciel, elle vole partout, elle est plus suspendue du
et
tout.
Et par
là.
Ailleurs, c'est pas du tout agréable comme mécanique de se répéter en boucle les radios jusqu'à trouver la bonne phrase à isoler pour envoyer un autre truc, c'est juste...
Parce que comme c'est sur un système de boucle et que tu peux avancer rapidement, tu peux passer les phrases, mais par contre, tu peux pas revenir en arrière, donc si t'as raté un morceau de phrase, t'es obligé de faire tout le tour. Non, c'est vraiment trop ennuyeux pour être justifiable par, certes, l'aspect temporel du truc. Il aurait mieux fallu, à la rigueur, laisser une plus grande liberté pour ensuite répondre à des puzzles à la Phoenix Wright. C'est-à-dire, je te mets cette phrase-là sur ce truc-là parce que c'est pas cohérent. Mais là, ça ne fonctionne pas. Mais vraiment, le pire, c'est le scénario. Le pire, c'est vraiment le scénario. On a passé. J'ai essayé d'expliquer le scénario à des collègues, mais qui me disaient, mais c'est con parce qu'il y a ça. Comment tu l'expliques? Mais je sais pas. Genre, la boucle temporelle, apparemment, enfin, on avance quand même dans le temps, alors qu'il y a une boucle temporelle. Bah non, du coup. On t'explique pourquoi on a mis la boucle temporelle, les raisons pour lesquelles on instaure la boucle temporelle, pourquoi le gouvernement veut instaurer une boucle temporelle. Tiens-toi bien, Erwan, et ce que je vais le dire, ça, parce que c'est quand même hallucinant. C'est pour que les gens reviennent à leur état initial et continuent leur vie de manière normale, tu vois, coincés dans une boucle, mais pour que la nature puisse continuer à pousser autour d'eux. Et donc, c'est une raison écologique. C'est pour laisser la Terre se reposer pendant que nous, on est coincés dans des boucles. Voilà, alors là, vous voyez pas Erwan, mais il fait des... Ah oui, je vois.
Je comprends rien.
Voilà. Donc, c'est problématique. Pourtant, on avance quand même dans le scénario. Mmh. Donc, apparemment, les boucles fonctionnent, mais des fois, elles ne fonctionnent pas. Est-ce que les gens retournent dans le temps ou est-ce que les gens oublient? On ne sait pas. Voilà, il y a plein de problèmes.
Il y a un côté, en tout cas, moi, j'y ai pas joué, hein, mais il y a un côté. Bon, déjà, dommage, parce que c'est vrai que c'est un studio, en tout cas, les deux premiers jeux étaient vraiment hyper intéressants et partaient sur des bonnes pistes. Après, ça arrive, les accidents, hein, chez un studio, ça arrive.
Je voulais pas faire le jeu de mots, mais bon, ça peut arriver, les accidents.
Oui, j'ai pas vu le jeu de mots, pardon, mais voilà, c'est un petit hors-sujet de la part d'Accidental Queens. On espère qu'ils vont revenir.
Avec un jeu plus, peut-être qu'il a été fait très rapidement aussi, peut-être c'était vraiment...
On connaît pas les contraintes, mais...
Parce que là, c'est Arte, c'est Focus, ouais. Je crois... Non, pas Focus, Plugin. Arte, Plugin. Peut-être c'était peut-être pour une commande, peut-être que le temps a été un petit peu ric-rac, peut-être que le high concept s'est révélé pas si intéressant que ça d'un point de vue game design. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire pour la suite.
On continuera à les suivre.
Ça coûte 7€, c'est sur PC mobile, mais je ne recommande pas trop. Voilà.
Merci à tous les deux. C'est fini avec... les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi contre?
Tu connais mon amour pour la diversité des séries, d'aller voir différents horizons. Du coup, j'aimerais vous parler d'une série Netflix qui s'appelle Tuca et Bertie. Alors, ça vient de sortir et ceux qui aiment bien BoJack Horseman, je pense, se sont jetés dessus immédiatement puisque Tuca et Bertie, c'est... Alors, j'ai noté... Anna Walt, je sais pas trop. Mais oui, ça a la gueule de BoJack Horseman, hein, très clairement. Donc on est encore dans un univers, t'as l'impression que ça a été dessiné par presque des enfants ou des trucs comme ça, mais c'est... Vous voyez, BoJack Horseman d'un point de vue graphique. Donc dans un monde où humains et animaux cohabitent, les oiseaux sont un peu anthropomorphisés. Et là, on suit donc les aventures de Tuca et Bertie, comme le titre l'indique. Tuca qui est un toucan, Bertie qui est un passereau, je crois. On a regardé avec un ami ce que c'était. C'est un passereau. Et donc l'une est complètement extravertie, fait la fête, couche à droite à gauche, fait du bruit. Elle est un peu casse-pied pour être honnête. Et on a Bertie qui c'est tout l'inverse, c'est ultra réservé, ultra réservé, qui s'est mis en couple avec son copain, qui n'ose pas demander une promotion au boulot alors que c'est la meilleure de tout le bureau, voilà. Et du coup, on va regarder un petit peu les dynamiques entre ces personnages qui s'adorent, qui sont ex-colocataires. C'est très drôle, c'est très bien écrit, ça parle de sujets graves et en même temps modernes, de manière hilarante et sans te donner de leçons forcément. Mais ça a amené de manière très subtile sur le féminisme, c'est vraiment post-MeToo, mais de manière très subtile, très sympa, très rigolote, on se marre vraiment devant cette série. Il y a vraiment plein de blagues à la seconde, c'est visuel, ça peut être limite trop visuel, c'est vraiment que ça explose de couleurs dans tous les sens. Il y a 10 épisodes, ça dure 25-26 minutes, donc ça se regarde assez vite.
Si t'aimes bien ça, je te conseille un bouquin qui est paru chez Gallimard l'année dernière, c'est une BD qu'elle a faite.
Ah oui.
Une histoire de cow-boy un peu taré aussi.
Ah oui.
qui est pas mal.
Ça a l'air intéressant.
Et ben, puisque tu fais du Netflix, moi je fais une série qui aurait été un tabac si c'était passé sur Netflix.
Oh là là.
Tout le monde en parlerait, tout le monde trouverait ça génial, mais non, pas de bol, c'est arrivé chez nous sur Amazon, et Amazon, personne ne l'a et tout le monde s'en fout.
Si, tout le monde l'a, mais personne ne le sait,
oui,
c'est pas pareil.
Il y a aussi ça. Ouais, c'est génial, ça s'appelle Fleabag. C'est fait par la déesse Phoebe Waller-Bridge. La saison 1 avait déjà laissé pas mal de monde sur le cul il y a 2 ans. On ne savait pas trop à quoi s'attendre pour une saison 2, et c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est beau. C'est l'histoire d'une trentenaire pétillante, cynique, qui est complètement paumée, qui dans la saison 1 doit gérer le deuil de sa mère et surtout de sa meilleure amie. et qu'on retrouve de façon un petit peu plus équilibrée dans la saison 2, mais c'est une comédie incroyablement intelligente.
C'est une comédie avec tout ce que tu viens
de
dire.
C'est une comédie qui cache une tragédie.
C'est
d'une intelligence, vraiment. Tu te marres et tu te rends compte dans la demi-seconde après qu'il y a un drame qui est caché derrière chaque scène. C'est superbe.
Et moi, quand je ne joue pas, je joue. non, en fait, je voulais vous dire quand même, je me suis rendu compte il y a quelques jours que donc ma progéniture était devenue compatible avec Just Dance.
Oh non!
Et c'est trop bien. C'est trop bien.
Ça les crève en fait, c'est ça
c'est
le truc.
C'est incroyable.
Ça les crève. Alors, il peut être tranquille après.
On a commencé avec la version Switch, mais moi je suis pas très convaincu avec les Joy-Con à la main,
t'es
etc.
T'es pas convaincu dans l'idée que ta Switch se retrouve contre le mur surtout, non?
Non, bah non, parce qu'on la joue évidemment en version dockée, donc c'est. Mais bon, c'est la reconnaissance des mouvements. On a toujours un truc et tout ça.
Bon.
Et donc j'ai ressorti la Kinect. J'ai dû acheter un adaptateur parce qu'elle n'est pas compatible avec la Xbox One X, donc j'ai acheté l'adaptateur. J'ai acheté Just Dance 2018 parce qu'il y a Vaiana. Enfin bon, bref, on s'en fout. Pour Xbox One. Et alors, la version Just Dance, on n'en a sans doute pas parlé parce que j'étais pas très proche de ce titre avant. On n'était pas. Mais la version Kinect de Just Dance 2018, pour le coup, mais je pense que 2019, c'est la même. C'est ouf, c'est très très bien fait. Les interfaces sont incroyables, les systèmes de score. Il y a une version Kids qui est très bien faite. Mes gamins adorent. Donc, j'ai découvert que les trois adorent. Et du coup, on se marre parce qu'en plus, il y a les sortes de sketch vidéo à la fin avec le best-of de tout le monde en train de gigoter devant la télé. Du coup, il y a des fous rires qui sont absolument incroyables. Je partagerai bien ça sur les réseaux sociaux, mais faut pas déconner. bref.
On te ressortira dans 10 ans.
C'est ça.
Et la voilà. Version mobile, non, t'as jamais essayé? Parce qu'il y a une version mobile de Just Dance apparemment qui fonctionne pas trop mal.
Non, j'ai pas essayé. Donc voilà, là, on lance du Just Dance Xbox régulièrement et c'est des très, très, très bons moments.
Et après,
voilà.
Il dort bien.
Tu m'enverras des vidéos quand même.
Ouais, allez, peut-être. Je sais pas, je verrai.
Moi, chez moi, ça fout le bordel. Hein. Les enfants se disputent au bout d'un moment parce qu'il y en a toujours une grande gagne et la petite perd.
Mais
moi, ça fait des drames.
J'ai ma solution.
Méfiance.
En fait, je gagne toujours.
Ah, c'est
tu vois,
ça.
Donc, du coup,
papa met tout le monde d'accord.
C'est moi qui gagne et eux, ils se disputent pas. Du coup, c'est
tu
moi qui ai la couronne.
Tu veux que Linda te filme en train de faire ça.
Merci à Solène Moulin pour la réal, c'était cool. Merci à tous et nous on se retrouve très bientôt sur binge.audio, sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.